Salut tout le monde, me voilà en direct avec vous et en fait aujourd'hui la question que je voulais traiter c'est une question qui vient de l'actualité, c'est-à-dire que depuis quelques temps on nous raconte qu'on va subir des pénuries, enfin qu'on va avoir des manques en quelque sorte, et parmi les manques dont on nous parle, enfin j'entends beaucoup dire que le produit qui va manquer le plus ça va être des huiles, c'est-à-dire que les gens disent notamment à Paris qu'on ne trouve plus les huiles comme on veut les trouver ou comme on espérait les trouver auparavant. Et donc, de fait, ben, ça pose un problème dans la mesure où les gens ne savent plus très bien comment faire et ils s'inquiètent. Alors, est-ce qu'ils s'inquiètent à tort ou à raison? C'était le but du live d'aujourd'hui. Déjà, petit récapitulatif, on distingue deux types d'huiles, des huiles vierges et des huiles raffinées. Quand on parle des huiles vierges ou brutes, elles sont extraites en général de la graine ou du fruit par un pressage mécanique et ensuite il y a une clarification et une filtration. C'est ça qu'on appelle une huile vierge. Alors beaucoup disent qu'elles ont des propriétés nutritionnelles supérieures, ce n'est pas tout à fait exact. Il faut savoir que la différence elle va se jouer essentiellement sur le goût et que par ailleurs les pesticides, les mycotoxines, les impuretés qui sont éventuellement présentes, elles ne seront pas éliminées par les procédés technologiques de raffinage, alors que les huiles raffinées, on va éliminer l'ensemble des substances qui ne sont pas incorporées ou qui ne font pas partie réellement de l'huile. En fait, le problème à traiter, c'est qu'on a pris l'habitude de cuisiner avec un certain type d'huile et qu'on s'interroge beaucoup pour savoir si on a le droit de prendre d'autres huiles pour cuisiner ou non. Je ne parle évidemment pas des huiles d'assaisonnement, je vais parler simplement des huiles de cuisson. Toute la différence, en fait, elle va se faire au niveau de ce qu'on appelle le point de fusion. C'est-à-dire, le point de fusion, c'est le point à partir duquel une huile va fumer. Alors, pour vous donner des exemples de points de fumée des huiles, l'huile d'olive, elle fume à partir de 242 degrés. L'huile d'arachide de tournesol, c'est 232 degrés. L'huile de pépin de raisin, c'est 216 degrés. Et l'huile de colza ou l'huile de noix, c'est 204 degrés. 204 degrés de température. Et ça veut dire donc que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on peut cuisiner avec d'autres huiles que l'huile de tournesol. On utilise l'huile de tournesol parce que c'est une huile qui est bien composée et donc même quand on la cuit, il ne se passe pas grand-chose. Par contre, on peut très bien utiliser et cuisiner et faire de la friture avec de l'huile de colza, contrairement à ce qu'on avait dit auparavant. Déjà parce qu'il est très difficile d'arriver à un point de fumée à part quand on utilise des friteuses. Mais quand vous travaillez avec une poêle ou quand vous cuisinez avec une poêle, eh bien de fait, les points de fusion, les points de fumée des huiles, ils ne sont jamais suffisamment importants. Et si ce point de fumée n'est pas important, l'huile, il ne lui arrivera pas grand-chose. Le danger d'une huile qui est brûlée, en fait, c'est essentiellement un danger d'embarras gastrique. Ça veut dire que c'est une huile qui va dégager des substances, en particulier l'acroléine, qui peut poser un problème aux gens dans la mesure où ça va leur donner un trouble digestif, c'est-à-dire qu'ils vont se ballonner, qu'ils vont se sentir mal. Et la deuxième possibilité, c'est la dégradation de l'huile, c'est-à-dire quand une huile, par exemple, est riche en acides gras polyinsaturés, eh bien, elle peut se saturer à l'air. C'est-à-dire qu'au début, on a une bonne huile pour notre santé, et puis cette huile va risquer de devenir moins bonne parce qu'à cause de la cuisson, eh bien, les acides gras polyinsaturés vont se transformer en acides gras saturés, et c'est ça qui fait essentiellement la différence. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas vous miner. Quand vous allez manquer ou si vous manquez d'huile de tournesol à un moment donné, puisqu'on n'a pas été assez prévoyant pour l'huile de tournesol, ou en tout cas on risque d'en manquer à cause des événements récents, eh bien c'est pas grave, vous pouvez cuisiner avec d'autres huiles, en particulier l'huile de pépin de raisin qui ne manquera pas, les huiles combinées que vous pouvez très bien cuire et l'huile de colza que vous pouvez très bien cuire. Donc il n'y avait pas d'inquiétude vraiment à avoir à propos des huiles. En ce qui concerne les assaisonnements, il n'y a aucun problème dans la mesure où quand vous utilisez des huiles de très bonne qualité, je répète que le gradient des huiles de qualité, c'est qu'on commence par les huiles combinées parce qu'elles sont bricolées. C'est un terme un peu trivial, un peu simple pour dire que ce sont des huiles combinées. C'est-à-dire qu'on a associé différents types d'huiles pour arriver à avoir le meilleur rapport oméga-3 sur oméga-6. C'est-à-dire avoir suffisamment d'oméga-3, mais avoir un rapport entre oméga-3 et oméga-6 qui soit de bonne qualité et bon pour notre santé. Donc ces huiles combinées, ce sont les meilleures huiles en termes de santé. Par contre, en termes de goût, évidemment, ça a beaucoup moins de goût. La deuxième chose, c'est que la deuxième huile derrière, c'est l'huile de colza, justement pour cet équilibre, son contenu en acides gras oméga 3, mais également son équilibre. Et derrière, vous trouvez l'huile d'olive. Voilà. Après, les huiles de tournesol et les huiles de pépins de raisin, elles sont plus souvent réservées à la cuisson, uniquement simplement parce que leur résistance sera meilleure. Et en termes de goût, ça sera à votre choix. D'ailleurs, la preuve, c'est que les gens en Méditerranée ne cuisinent qu'à l'huile d'olive et ils n'ont pas souffert de ça pendant des années et des années. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est pour ça que même quand certaines me disent, Sandy me dit, j'utilise de l'huile de colza spéciale cuisson. En fait, c'était une embrouille. Ça veut dire ils ont fait une huile de colza spéciale cuisson. Mais en réalité, l'huile de colza, elle pouvait se cuire, en tout cas à la poêle, mais pas en friteuse. C'est pour ça que quand on dit qu'il va y avoir des manques en certains produits, bon, c'est le grand thème des médias, hein, ça veut dire pour exciter les gens. Et donc, du coup, ça travaille beaucoup sur la phobie des individus. En fait, il y a toujours des produits de remplacement. À chaque fois, on l'a vu. Par exemple, les gens qui mangent sans gluten ne mangent quasiment pas de farine de blé et pourtant, ils arrivent à survivre. Ils ne mangent pas non plus des tas d'autres céréales, mais on leur trouve des produits de remplacement, que ce soit le maïs, le riz, le sarrasin. Et on va réhabiliter d'autres céréales type l'avoine, l'épeautre. Et en même temps, pour avoir des sucres lents, ben, on les trouve dans d'autres produits. On a les pommes de terre. On ne va pas manquer de pommes de terre en France puisque c'était notre célèbre parmentier qui l'avait inventé. Voilà, ça c'était extrait de la consultation d'aujourd'hui parce que ça fait partie des questions qu'on m'a beaucoup posées et avec les formules de repas rapides. Mais les formules de repas rapides, j'en parlerai probablement dimanche. Voilà, on va commencer tout de suite à répondre aux questions histoire que vous ayez vos réponses le plus rapidement possible. Alors, l'huile de palme pour la cuisine, non. Enfin, si t'as pas le choix, t'es obligé de faire ça, mais l'huile de palme, je le répète, c'est quand même une mauvaise huile parce qu'elle est riche en acides gras saturés. Je parle pas non seulement des trucs écologiques, mais je parle aussi de la qualité nutritionnelle de l'huile. Et d'ailleurs, j'ai repéré, au titre d'anecdote, il y a un monsieur très gentil qui m'a offert, pour me remercier, des petits gâteaux spécial Venise. Et vous voyez que j'avais raison parce que on commence à voir apparaître des huiles de coco dans certains gâteaux ou dans certaines pâtisseries. Uniquement parce qu'ils ont essayé de contourner l'huile de palme comme une mauvaise huile pour essayer de donner comme exemple l'huile de coco parce que ça les arrange sur le plan industriel. Voilà, mais on peut le faire. Nassima, après un mois de ramadan, t'as pas pris de poids, félicitations. Je pense que mon corps a stocké. Quoi faire pour ne pas prendre du poids? Tout simplement reprendre une alimentation normale. Ça veut dire équilibrer ton alimentation au travers de ce que tu mangeais pendant le ramadan, le répartir sur les 3 repas de la journée. Et tu me demandes également si on peut remplacer l'huile de friture par l'huile d'arachide. Bien sûr, on peut utiliser l'huile d'arachide, évidemment. Vaut-il mieux cuire à l'huile ou à l'astra? Demande Blondie. C'est quand même mieux. Écoute, en fait, c'est pas du tout la même chose. Mais si tu prends une bonne huile, c'est la même chose que l'astra. Si tu te prends une mauvaise huile, c'est moins bien que l'astra. L'huile de colza pour Joël, bien sûr, tu as tout à fait raison. Que pensez-vous du mélange huile-beurre pour la cuisson? Alors, je ne sais pas d'où ça vient. On a pensé pendant longtemps qu'il suffisait de rajouter un peu d'huile pour empêcher la réaction de Maillard de se former. La réaction de Maillard, c'est une réaction qui noircit le beurre, ce qui ne veut pas dire qu'il est mauvais le beurre. Et je pense que les gens mettaient l'huile pour mettre moins de beurre et parce que le point de fumée n'était atteint moins rapidement. Mais ce n'est pas meilleur, franchement. L'huile d'olive est très bien, Nadège Lecomte. Peut-on considérer, question plus technique, que la brandade de morue en boîte que l'on mélange à de la purée de pommes de terre remplace la protéine? Et si oui, en quelle quantité? Non, on ne peut pas considérer ça parce que la brandade de morue, pour récupérer une protéine sans avoir à consommer des protéines de type animal, il faut faire croiser des légumineuses avec des produits céréaliers, c'est-à-dire des féculents. Mais là, tu mélanges dans la brandade de morue, ils ont mis probablement de la purée de pommes de terre aussi. Et après, ça dépendra en termes de protéines de la quantité de morue que tu as. Si tu arrives à récupérer 20 grammes de protéines dans ton assiette, oui, ça ira à peu près. Corinne, notre cuisinière du site, elle a fait ce soir des endives au jambon, mais pas de sauce béchamel. Et elle a fait une sauce avec le bouillon de cuisson des endives. Vous l'avez mis là. Mais c'est une cuisinière, Corinne, de la coriandre, du curcuma, des oignons rouges, des champignons. Et j'ai rajouté un peu de parmesan pour le goût. Ben voilà, c'est un beau repas. Et enfin, les parents faisaient toutes les fritures à l'huile d'arachide. Qu'en pensez-vous? Ben, à l'époque, on n'avait pas trop le choix. On n'avait pas la diversité alimentaire qu'on a aujourd'hui. C'est une moins bonne huile, mais on peut cuisiner avec. Nous, on ne peut pas dire que je mets beaucoup d'huile. Une bouteille d'huile lui dure très longtemps, hein, Corinne. Bonsoir, Jean-Pierre. Alors, question de Carole. Que pensez-vous des séances d'électrostimulation? Ça revient régulièrement. Vous savez, régulièrement, on a des produits à la mode. Alors, ces temps-ci, à la mode, c'est électrostimulation. En fait, grosso modo, ça vise à exciter le muscle pour le contracter sans avoir à faire l'effort physique qui va. C'est à peu près aussi fatigant qu'un effort physique. Le seul inconvénient, Carole, c'est que ça ne muscle que les muscles superficiels. Donc, c'est quand même moins bien que la gymnastique, mais c'est pas si mal que ça. Corinne, elle dit, je préfère cuire sans rien et rajouter un petit bout de beurre dessus à la fin de la cuisson. C'est vrai que c'est pas mal. Moi, c'est le conseil que je recommande, notamment dans les familles, pour éviter que les gens prennent trop de poids, c'est que je demande de faire une cuisine, c'est-à-dire de faire la cuisine soi-même, de laisser les assaisonnements à part. Et quand certains ont besoin de matière grasse, eh bien, à ce moment-là, on leur dit de rajouter eux-mêmes un morceau de beurre sur leur viande ou sur leur pâte. Entre le sucre et la viande, sur Instagram, qui est le moins à craindre? Je pense la viande quand même. C'est des comparaisons difficiles à faire parce que c'est pas du tout les mêmes catégories de produits. L'huile d'avocat, nous dit lui Tony. Vous voyez qu'on apprend plein de choses sur ces lives. L'huile d'avocat, je connaissais pas, mais c'est une très bonne huile a priori puisqu'elle est issue de l'avocat. Donc ça ne peut être qu'une très bonne huile. Si tu en trouves, c'est super sympa. Joa Cerise One One. Quelle huile puis-je mettre dans un gâteau au yaourt? Tu peux mettre l'huile que tu veux, franchement. Mais c'est l'huile de colza, à mon avis, qui te rendra le plus de service parce qu'elle aura le moins de goût possible, ou les huiles combinées. Peut-on intégrer le riz rouge et les pâtes complètes lors d'un début de régime, si tu veux? Moi, ça me dérange pas du tout. En fait, pour moi, sur le plan nutritionnel, c'est des sucres lents. Le riz rouge, bah, c'était à la mode à un moment donné parce que les gens qui prenaient du riz rouge avaient moins de cholestérol uniquement parce que dans le riz rouge, il y a des statines. Mais bien sûr qu'on peut les intégrer dans tous les régimes qu'on donne sur Savoir Maigrir. Dans la plupart des régimes de début, au démarrage, on donne toujours des féculents dans le régime. C'est important de nourrir le muscle et le cerveau. Que pensez-vous des injections HCG pour maigrir? Que du mal. Moi, c'est pas... Je veux dire, j'ai pas la langue de bois, hein. Faites-vous des programmes alimentaires pour la musculation? Non, j'ai pas fait encore, Bernard. Je devrais le faire parce que je vois tellement de gens faire des bêtises que ça commence à m'agacer. Que peut-on prendre pour booster le métabolisme qui est trop lent à la pharmacie, s'il vous plaît? Pas grand-chose. Tu peux essayer de boire plus de café parce qu'après, la seule chose qui accélère le métabolisme, c'est les hormones thyroïdiennes, mais ça se fait sur prescription quand on est malade. Comment bouger quand on a du poids dur, dur? Écoutez, j'ai réussi à faire bouger des gens extrêmement obèses à un moment donné en commençant par les exercices les plus simples. Les faire marcher à petits pas, puis à pas plus soutenus, puis à trottiner. Donc, c'est une question d'entraînement. Et le sel, nous dit Siri Boons. Le sel, il me pose deux problèmes. Le sel, d'abord, il aiguise l'appétit des gens, il faut être clair. C'est-à-dire que plus vous mangez salé, plus vous avez envie de manger, ça c'est la première chose. Et deuxièmement, le nouveau truc qu'on sait depuis quelque temps, c'est que le sel fait du mal à la paroi de l'intestin. C'est-à-dire qu'il le rend plus perméable. Et donc, comme on sait que l'environnement est pollué maintenant, il faut faire attention à ça pour pas que les substances environnementales passent au travers de l'intestin. C'est surtout ça le plus important, hein. J'essaye de prendre des huiles françaises, félicitations. Je vois que tu es nationaliste, en tout cas au travers de l'alimentation. Après le reste, je sais pas, hein. Merci pour tous les coucous que vous envoyez. Corinne, elle a fait du palpé roulé par un kiné. C'était un peu douloureux, mais oui, c'est pas mal de le faire par un kiné. Moi, j'aime bien. Je préfère ça plutôt que les appareils. Faut déjà en trouver de l'huile de colza. Alors, tu as raison, Chantal. On ne trouve pas toutes les huiles à l'heure actuelle, mais il y a des huiles. Donc, ce n'est pas grave de trouver une autre huile, hein. Le fromage au lait battu de ferme fait-il grossir? Ça dépend de la quantité, Nadège. Bah, a priori, non, pas spécialement si tu respectes une quantité raisonnable, hein. Sandy Soleil, on vient de lui diagnostiquer une fibromyalgie. Des conseils au niveau alimentaire, il n'y a rien au niveau alimentaire, à part ne pas te priver de féculents, hein. C'est important, l'huile, c'est important, l'huile, très important. D'abord, ça nourrit le corps, mais en même temps, c'est une source d'acide gras et on a besoin de l'acide gras. Alors, il y a quelqu'un qui confirme, Blondie notamment, que l'huile d'avocat, c'est très bon et elle est très bonne pour la santé, hein. Huile de lin, huile de chanvre, huile de pépins de courge. Alors, certaines huiles que tu viens de citer, Thierry, peuvent se cuire, d'autres non. Ça veut dire, par exemple, tu peux pas cuire l'huile de lin, mais tu peux cuire l'huile de pépins de courge. À La Réunion, dit Mireille, on ne trouve plus d'huile. Oui, mais c'est momentané. Je pense que c'est vraiment un problème d'approvisionnement. Apparemment, quand on entend Michel Leclerc, eh bien, il dit qu'il y aura pas, en tout cas, il y aura pas de pénurie jusqu'à l'été. Donc, c'est l'approvisionnement qui est ralenti. Merci pour votre réponse. Docteur, doit-on éliminer toutes sortes de sucres industriels pour une meilleure santé? C'est mieux, oui, c'est mieux. Ça m'ennuie de dire ça parce que je suis pas un nutritionniste privatif, mais c'est mieux, oui. Bonjour à toutes et à tous, nous dit René. Je mange 5 à 6 fois par semaine une omelette, 3 blancs d'œufs, 1 jaune d'œuf. Est-ce que c'est trop? Non, pas du tout, parce qu'en fait, en réalité, tu manges que 5 ou 6 jaunes d'œufs par semaine. Le blanc ne contient pas de cholestérol et ne contient pas trop de graisse, donc ça va. Les compotes sans sucre sont-elles aussi nutritives que les fruits frais? Oui, presque. Pas tout à fait, parce que c'est pas la même qualité, mais presque quand même. Corinne, elle aime bien mettre un peu dessus de la fleur de sel. Oui, si vous voulez. Hein. Faites quand même attention au sel. C'est vraiment, on n'en parle pas aussi souvent que des graisses et du sucre, mais c'est un problème. Hein. Alors, Sofiane a perdu 70 kilos en moins d'un an en mangeant des légumes vapeur, en faisant du vélo d'appartement. Oui, effectivement. Peut-on cuire avec de l'huile d'avocat? Non, je ne crois pas, malheureusement. J'ai acheté des skirs hypro, je les trouve assez sucrés. Y a-t-il des skirs hypro nature? Oui, j'en ai trouvé, mais c'est vrai qu'on les trouve pas facilement. C'est le seul problème, c'est surtout ça. Le skir, le problème du skir, c'est vraiment, il y a un problème avec le skir, c'est le fait que les quantités qui sont servies, en fait, quand on vous sert des quantités, le skir dans leur petite boîte, en général, ils font des quantités qui sont beaucoup trop fortes. C'est souvent des boîtes de 150 à 180 grammes. C'est un petit peu trop. En réalité, il faudrait se contenter de manger la moitié d'un skir. Ça reste quand même un bon produit. Je vous rappelle que le skir, sa particularité, c'est d'être un yaourt double lait écrémé. Et en fait, ils ont utilisé les protéines du lait écrémé pour en fait des yaourts hyper protéinés. C'est assez rassasiant. Il faut aimer le goût, mais pour que ça soit meilleur, en fait, ils ont fait d'autres types de skirs. C'est-à-dire qu'ils ont mis beaucoup de fruits à l'intérieur, des mûres, des myrtilles. Mais en même temps, quand ils font ça, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça augmente simplement la teneur en produits sucrés. On n'a plus le même yaourt, c'est plus un yaourt diététique. Les skirs, moi, je pense qu'il faut les réserver surtout pour le petit déjeuner, pour caler les gens, ou bien pour ceux qui ont vraiment faim, des gens qui, sans arrêt, ont le sentiment de manquer de nourriture. Je pense qu'on peut leur donner des skirs à la fin des repas. Mais pour ceux qui n'ont pas cette sensation trop forte d'appétit, je pense que c'est mieux de consommer au petit déjeuner. Pouvons-nous maigrir sans faire du sport? On peut, mais c'est un peu compliqué. Pendant la diète des œufs, pour tous ceux qui ne savent pas, la diète des œufs, c'est quoi? C'est en fait le régime des œufs que j'avais mis à la mode il y a quelques temps. Et c'est un régime qui sert à accélérer la perte de poids, c'est-à-dire à aller très très vite à un moment donné quand on en a besoin. C'est pas à faire systématiquement. Je peux remplacer un œuf par un yaourt nature supplémentaire? Oui, si tu veux. Si vraiment c'est la seule chose qui te dérange dans ce régime, ouais, tu peux absolument. Manger 4 œufs par jour est-il bon pour la santé? C'est pas, je peux pas te dire que c'est bon pour la santé. Je veux dire, tout est bon pour la santé et en même temps, c'est les excès qui posent un problème. La seule chose que je sais, c'est que, contrairement à ce qu'on raconte, l'œuf n'est pas aussi tabou que ce qu'on avait dit à un moment donné. On a toujours pensé que c'était à cause du cholestérol. En réalité, c'est pas le cholestérol, parce que le cholestérol, on est capable de le fabriquer nous-mêmes à partir de l'ensemble de notre alimentation. Voilà. Donc, tu peux manger tes 4 œufs par jour. Est-ce que les graines de courge suffisent pour éliminer les parasites intestinaux? Alors, non. Les graines de courge, d'abord, on en parle beaucoup pour les infections urinaires, mais pour les parasites intestinaux, non. Il faut vraiment des traitements antiparasitaires. Faites attention avec ce type de conseil. Ça m'inquiète toujours. Je ne sais pas si vous avez eu aujourd'hui, il y a une fille qui s'est fait épingler parce que je ne vois plus de questions sur Facebook. Est-ce que c'est mon ordinateur qui ne marche pas? Il y a beaucoup de gens qui racontent des trucs comme ça. La fille, c'est une fille qui écrit des livres, Les clés de votre morale ou je ne sais pas quoi. Elle a raconté n'importe quoi sur l'endométriose. Bon. Faut pas écouter ces gens-là, on n'est pas loin des sectes, faut faire très attention. Hein. Pour le skir, il suffit d'acheter le pot d'un kilo nature, on a la réponse les amis, et de se servir soi-même la bonne portion. Voilà, ça c'est vachement bien, je savais même pas qu'ils faisaient des pots d'un kilo. Merci beaucoup du conseil. Combien de jaunes d'œufs maximum par semaine? Je dirais 6 à 8, voilà, ça me paraît raisonnable. Est-il vrai que le bœuf 15% est meilleur que le 5% car il s'oxyde moins lors de la cuisson? Non, c'est pas vrai, Matt Pérez, voilà. Le skir, c'est pareil que le fromage blanc, pas tout à fait. Le skir, ça contient vraiment beaucoup plus de protéines. Hein. C'est vraiment important. Les fruits à 16h ou le matin au petit-déj? Vraiment, c'est comme vous voulez. Les eaux type Perrier ouvrent-elles l'appétit? Non, Guylaine. Rose, elle a remplacé ce soir exceptionnellement un dîner diète par 2 barres du camp au son d'avoine, si tu veux, 103 calories la barre, sachant qu'elle n'a pas mangé à 12h le matin. Oui, si tu veux, c'est pas gênant. Encore une fois, quand vous prenez des barres, c'est pas gênant, ça veut dire à condition que ça soit des produits de remplacement quand vous n'avez pas autre chose. Les graines de lin font-elles maigrir? Non, c'est Meria Patricia. Au dessert, je vais manger un mélange de compote sans sucre ajouté avec du fromage blanc, du Limousin, c'est parfait. Je trouve que c'est un des mélanges les plus rassasiants. Merci pour vos compliments. Que pensez-vous de l'ajout d'ashwagandha avec le magnésium pour la récupération? C'est bien, c'est pas mal. L'ashwagandha, en fait, c'est une racine de gingembre indienne. Hein. L'huile de poisson a-t-elle les mêmes avantages que les huiles végétales? Alors, si, oui, a priori oui, mais je ne suis pas sûr qu'elle puisse se cuire, hein. J'ai un traitement hormonal suite à un cancer du sein et je n'arrive pas à modérer mon appétit. Des conseils? Oui, en général, les gens qui sont hyperphagiques comme ça, ce que je leur donne, c'est je leur fais acheter des poudres de protéines, mais les moins chères possibles, en supermarché ou en pharmacie, et je leur demande de prendre 10 grammes de protéines en poudre une demi-heure avant les repas, dans un grand verre d'eau. Et ça marchera. Que pensez-vous du vinaigre de cidre pour le rééquilibrage glucidique? Ben, c'est pas suffisant, ça marchera pas bien. Si tu te contentes de ça marchera pas. Est-ce grave si je mange qu'un repas par jour? J'ai répondu dimanche dernier, non. Non, même si que tu as faim ou que tu n'es pas faim, non, c'est pas très grave. J'aime bien ajouter un filet de chicorée liquide dans la salade, ça donne une jolie couleur et un petit goût sympathique. À savoir que dans le filet de chicorée, il y a quand même des fibres, mais si tu trouves ça bon, c'est bien. Amino, pourquoi avons-nous des coups de téléphone pour nous proposer des produits pour activer le métabolisme lent alors que vous dites que ça ne sert à rien? Je précise de votre programme Savoir Maigrir. Parce que la conseillère qui t'a appelé est pressée de t'en vendre et qu'elle est prête à raconter n'importe quoi. C'est pour ça que je suis là pour contrôler avec vous et vous dire la vérité. Huile d'olive, Thierry Michel, Luc ou Cuvée Olivière du Languedoc. Wow, là c'est vraiment un conseil. Donc c'est bien. Le curcuma améliore-t-il la récupération car diminution de l'inflammation? Non, je pense que non, si tu veux. C'est plutôt une rumeur, mais en fait, il n'y a pas de produit qui soit capable de faire ça. Vous dites que c'est les mélanges les plus rassasiants. Je ne comprends pas ce que tu veux me dire. Non, rassasiant, c'est-à-dire quand tu mélanges, par exemple, une compote avec un fromage blanc, en général, l'effet sur l'appétit est vraiment très très bon. Voilà, ça marche très bien pour couper l'appétit. Désolé Doc, dimanche je n'étais pas en ligne, merci pour votre réponse, c'est pas grave. Peut-on remplacer une envie répressive de manger sans faim par un demi-Xanax? Tu peux, oui, parce que en fait tu fais le diagnostic quand tu me dis ça. C'est-à-dire que ton envie de manger sans faim, elle est le fruit de ton anxiété. Je prends 7 grammes de chocolat noir par jour et un demi-fruit en moins pour 1400 calories. C'est vachement bien Marie-Claire, ça veut dire que tu as tout compris. Le café Bonjour fait-il grossir? Non, pas spécialement. Par contre, le cappuccino, ça dépend comment il est fait, il peut faire grossir s'il est mal fait. Merci pour vos lives, c'est gentil, comme tout. Docteur, je perçois une petite fatigue qui commence chez vous. Je vous prie de m'excuser, ménagez-vous et bon appétit. Non, ça va, je ne suis pas fatigué, la journée a été longue, simplement. Les protéines en poudre avant les repas vont-elles me permettre de réduire l'appétit même entre les repas? Oui, je pense que oui. Éventuellement, si c'est entre les repas, tu peux les prendre entre les repas aussi. Que pensez-vous de l'efficacité complément EPA et DHA? C'est bien EPA et DHA, mais si tu as une alimentation qui est bien cadrée, ben ça marche très bien. Bon, il n'y a plus trop de questions, les amis. Combien de café maximum? Alors, du coup, ça dépend de ta tolérance, c'est surtout ça. Disons que 4, c'est bien dans la journée. Donc, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous retrouve dimanche. Dimanche, je vous fais les repas rapides. D'accord? Ça sera plus alerte. Les noix de cajou comme collation? Non, arrêtez avec vos oléagineux, j'en peux plus. S'il y a un aliment qu'on doit absolument consommer, c'est lequel? C'est les végétaux. C'est surtout les végétaux. Bonne soirée, les amis. Et puis je vous retrouve dimanche soir à 19h30. Salut tout le monde.